Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, ou si ça se trouve, rebonjour. Elle a appelé sa boîte de production de films Rouge. Rouge International, le cinéma peut parfois faire bon ménage avec les engagements. L'actrice productrice Julie Gayet est l'invitée de Culture Média dans un petit quart d'heure. Encore du foot, mais féminin cette fois. En septembre sortira le documentaire Joueuse, consacré aux championnes de l'Olympique Lyonnais. On va parler parité, violence faite aux femmes et aussi cinéma fragilisé cet été par un virus qui fait mal aux salles. Les Indispensables, ce matin, une série sur la plateforme d'Amazon Starzplay, Rami, saison 2. Rami cherche la femme de sa vie. On en parle avec Clémence Olivier. Et puis première page, ce matin, celle du roman à paraître Black Manou. Je vais le refaire. Black Manou, signé Gauze aux éditions Le Nouvel Attila. Culture Média, deuxième heure en direct jusqu'à 11h sur Europe 1. Bonne matinée à vous. Le journal de la culture va pouvoir commencer. Bonjour Damien Caprespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui.
Au sommaire, une chanson en exclu, de la musique country, une série de news en vrac, une famille parfaite, Morpheus qui se morfond et un groupe de rock collector.
Et donc une nouvelle chanson en exclusivité, ça fait plaisir. L'excellent groupe britannique London Grammar sort un nouveau disque.
Oui, il sera diffusé, dévoilé plutôt officiellement ce soir à 20h30. Mais vous le savez, on aime bien prendre un peu d'avance ici à Culture Média. D'autant plus qu'on les aime beaucoup, les London Grammar. On avait adoré leur chanson Wasting My Young Years. Vous aviez passé d'ailleurs un de leurs disques il y a quelques jours, une reprise du titre Night Call, la BO du film Drive. Mais aujourd'hui, c'est donc avec une nouvelle chanson, Baby It's You, qu'ils ont décidé d'enchanter notre fin d'été. C'est toujours aussi lyrique, c'est toujours aussi romantique. C'est un vrai coup de cœur, vraiment, j'adore. Alors, on écoute un extrait.
C'est tout.
Ah, il va falloir attendre 20h30 pour avoir la chanson en intégralité. Je vous passe déjà en exclu.
Oui, non, je sais bien.
C'est très joli, ça donne envie déjà.
Ça donne envie, c'est bien le problème. Baby, it's you. London Grammar. Et donc, voilà, ce sera disponible ce soir. On avait un petit aperçu en exclu.
Exactement.
Dans un tout autre style, Apple TV va partir à la recherche de la nouvelle star de la country.
Si vous êtes fan de banjo, si vous vous sentez une âme de cowboy ou de cowgirl d'ailleurs, et si Dolly Parton est votre idole, alors réjouissez-vous. Le programme My Kind of Country va rechercher des talents dans le monde entier. Et ce programme, il va être produit par une des actrices les plus intéressantes du moment, Reese Witherspoon. Alors bien sûr, on se souvient d'elle pour sa prestation Rose Barbie dans le film La Revanche d'une Blonde, sorti au début des années 2000. Mais depuis quelques temps, Reese Witherspoon, elle se retrouve surtout au cœur de projets télé palpitants, remarquables. Je pense notamment aux séries Big Little Lies ou The Morning Show avec Jennifer Aniston. Elle était géniale dans ses séries. Alors avec My Kind of Country, Reese Witherspoon se lance désormais dans la production de programmes à mi-chemin entre le documentaire et la télé-réalité. Et le tournage est sur le point de débuter. On attend de voir ce que ça va donner.
On poursuit ce journal, Damien, avec une série d'infos en vrac.
Ouais, en vrac. Tout d'abord, la news numéro 1. La chanteuse Ariana Grande est devenue hier l'artiste la plus écoutée sur Spotify. Elle détrône Rihanna. Et les titres d'Ariana Grande ont été écoutés plus de 20 milliards de fois sur la plateforme.
My goodness. News numéro 2.
70 artistes dénoncent aujourd'hui dans une tribune la violence homophobe qui sévit ces temps-ci en Pologne. Parmi les signataires, Isabelle Huppert, Pedro Almodovar, les écrivains Paul Auster et Édouard Louis, ou encore les cinéastes Volker Schlöndorff et Stephen Daldry. C'est terrible ce qui se passe en Pologne en ce moment.
News numéro 3.
Il n'y aura pas de dérogation ce week-end pour le spectacle du Puy du Fou. La jauge restera limitée à 5000 spectateurs. Alors après la polémique de la fin de semaine dernière, Roselyne Bachelot reçoit à partir d'aujourd'hui des représentants du monde de la culture pour faire un point sur l'accueil du public dans les lieux culturels.
News numéro 4.
Si jamais Paris Hilton vous manquait, bah oui, on ne sait jamais. Un documentaire consacré à sa vie et à ses traumas d'enfance sera visible à partir du 14 septembre prochain sur la plateforme YouTube originale. Écoutez.
Ah, désolée, je suis tellement habituée à jouer un rôle que c'est dur pour moi d'être naturelle. Personne ne sait vraiment qui je suis.
Eh oui,
Attendez. Valentine Gélin dans la peau de Paris Hilton.
Elle le fait très bien.
Vous aurez tout entendu.
Ouais, voilà. Ouais. En tout cas, ce documentaire, sans rigoler, on va dire, ce documentaire a l'air vraiment bien, en fait. Et la bande-annonce est déjà visible sur le net. Je vous conseille d'aller le regarder. En tout cas, ça vaut le détour. Au moins, la bande-annonce, déjà, ça donne un aperçu.
Et il y a une news numéro 5.
Oui, la news numéro 5, c'est que Mathieu Chédid est contraint d'annuler sa tournée suite à la pandémie de coronavirus et à l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes. Il lui restait une dizaine de dates, parmi lesquelles Bordeaux, Lyon, Nantes, Rouen ou encore Lille et Aurillac. C'est dommage.
Aujourd'hui dans les salles de cinéma, un film, Damien, qui vous a particulièrement emballé.
Oui, c'est un film danois qui s'appelle Perfect Family. C'est l'histoire d'une famille qui voit son quotidien bouleversé lorsque le père décide d'assumer sa transidentité.
Ça leur explique. Nous divorçons car votre père veut devenir une femme.
Alors c'est un film hyper sensible et très tendre. On découvre les répercussions de cette décision non seulement dans la vie de cette figure paternelle mais aussi sur son ex-femme et ses deux filles. Les situations sont très touchantes. La caméra elle est toujours posée à bonne distance. Elle ne tombe jamais dans le drama. C'est très juste, c'est poignant. Il faut dire que la réalisatrice sait de quoi elle parle puisqu'elle s'est inspirée de sa propre histoire et de ses souvenirs d'enfance lorsque son père a décidé de changer de sexe. Alors A Perfect Family questionne les notions de normes, d'acceptation de l'autre. C'est vraiment un très beau film que je vous conseille chaleureusement. Il est visible dès aujourd'hui dans toutes les salles.
Encore du cinéma, un personnage culte sera absent d'une saga mythique. Donc,
qu'est-ce qui m'arrive ?
La réponse est là-bas, Néo. C'est la question qui nous anime tous.
Oui, vous l'avez peut-être connu, il s'agit du film Matrix. La saga avec Keanu Reeves et Carrie Anne Moss en tête d'affiche va prochainement faire son grand retour. Mais si Neo et Trinity seront de la partie, il y aura un grand absent pour tous les fans. L'acteur Laurence Fishburne vient de confirmer que son personnage Morpheus, le mentor de Keanu Reeves dans le film, ne fera pas partie de l'aventure. La réalisatrice Lana Wachowski en a décidé autrement. Autre personnage qui ne devrait pas apparaître dans ce quatrième volet, le très méchant agent Smith, incarné par Hugo Weaving. Matrix 4 est actuellement en tournage et la sortie de ce nouveau volet est prévu pour le 30 mars 2022, donc on a encore un peu de temps.
Ouais.
Ça prend du temps, c'est tellement...
Bah oui, ça prend du temps de faire les choses. On termine ce journal de la culture en musique avec l'un des plus grands groupes de rock des années 80 mené par Mark Knopfler.
Exactement, ce groupe c'est Dire Straits, c'est-à-dire à peu près 140 millions d'albums vendus à travers le monde, des hits à l'appel, des concerts dans des stades du monde entier remplis à craquer. En 13 ans d'existence, de 78 à 91, le groupe y a enregistré 6 albums studio et ces 6 albums, ils feront justement l'objet d'un coffret collector qui sortira en version CD et vinyle le 9 octobre prochain. Alors, pour fêter ça, je vous propose qu'on écoute un extrait d'un de leurs tubes. Je vais vous avouer quelque chose, Pascal, en fait. Je suis pas très fan de Dire Straits.
C'est votre droit.
J'ai le droit, moi. Ouais. Mais pour le coup, cette chanson-là, je la trouve vraiment très belle. Alors, je vous propose qu'on écoute Romeo and Juliette.
Il y a quand même la voix de Mark Knopfler et sa guitare, évidemment.
Mais cette chanson est très belle.
Oui, très belle. C'est les autres que vous ne voulez
pas. Money for nothing, j'ai du mal.
On est d'accord. Merci Damien Cabrespine. À demain pour un nouveau journal de la culture. Ouais, avant Julie Gayet, Curtis Mayfield sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
Décidément, on parle pas mal de football en ce moment et ça ne va pas pour lui déplaire, mais le foot, par les temps qui courent, se joue dans des stades à huis clos avec bande-son, tandis que les artistes se demandent bien à voix haute pourquoi des jauges drastiques leur sont imposées quand on peut voyager, certes masqué, mais sans place de libre dans le TGV. Bref, une actrice productrice aimant le foot et dans Culture Média ce matin. Bonjour Julie Gayet.
Bonjour.
Vous êtes la femme de la situation. Est-ce que vous étiez dans la télé hier soir ?
Pour le PSG, j'étais pour Lyon et alors malheureusement hier, je dîner avec José Dayan. Bon, on va tout faire, mais elle m'a raccompagnée et on a vu cette liesse dans les rues de Paris.
Vous êtes pour Lyon, donc c'est ce soir, hein, votre tour. Vous êtes pour Lyon, vous êtes pour Lyon, on va le voir.
Je suis pour les Lyonnes, oui. Pour l'OL féminin, pour ceux qui écoutent. Oui.
Mais quand même pour Lyon, face au Bayern.
Voilà, j'ai découvert Jean-Michel Aulas, qui est un personnage au travers de son combat pour le football féminin. Et maintenant, je supporte Lyon. Ce qui plaît beaucoup à Benjamin Biolay, mais pourtant, je suis parisienne.
Bah oui, parce que Benjamin Biolay est originaire de Lyon.
De Lyon.
Et voilà. Donc, vous reconnaissez là-dessus, sur le foot et sur la musique aussi, j'imagine.
Exactement.
Ça vous vient d'où, Julie Gayet, cet amour du foot ?
Bah depuis toujours, j'ai toujours joué au foot, je jouais au foot au collège, j'ai joué après, j'ai essayé. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de femmes dans les matchs, c'est comme quoi on peut regarder des matchs de foot petite fille en complètement s'identifiant aux garçons sans réaliser qu'en fait ce ne sont pas des joueuses. Et d'où mon envie de produire ce film Les Joueuses, pour les mettre en avant et qu'on les connaisse mieux.
Juste sur votre expérience personnelle, vous jouiez à quel poste ?
Alors j'étais attaquante et puis j'ai fini au goal.
Drôle de parcours. Goal.
Oui, j'étais goal en fait. Dès que j'ai commencé à jouer dans des clubs un peu sérieux, parce que je prenais beaucoup de tacles et de bleus sur les mollets, ce qui n'est pas très sexy quand on fait des castings de comédiennes. C'était pas forcément le meilleur rôle. Mais non, mais j'aime ça. C'est un sport d'équipe. C'est un sport qu'on peut jouer partout dans le monde. Il suffit d'une balle, d'un ballon, une canette de coca. Voilà, c'est un sport. Qui me fait vibrer. Et puis il y a quelque chose qui se passe avec le football, on le voit là, c'est une famille qui regarde le foot, enfin, moi je sais que je vibre, ça crie, c'est joyeux, on l'a vu hier dans les rues. Et c'est aussi pour ça que mettre les femmes en avant dans le football, je trouve que c'est intéressant pour un sport qu'on connaît tous.
Alors le foot féminin, on a mis du temps à le découvrir, il faut dire ce qu'il y a. Il y a eu une espèce de coup de projecteur lors du mondial l'an dernier en France. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu redescendu quand même ?
Il y a eu le Covid, donc en même temps le confinement a un peu tout redescendu, mais effectivement il y a le danger qu'elles en pâtissent, donc il faut remettre un coup de projecteur, ne pas lâcher en tout cas ce mouvement qui est arrivé, mais pas arrivé de nulle part non plus. Moi j'ai produit un documentaire pour TF1 sur l'équipe de France féminine, mais qu'on connaissait peu, mais les médias ont fait ce travail de les faire connaître pendant un an. On a vu des sujets, pour la première fois on commençait à en entendre parler, mais c'est sûr qu'on s'attendait à 4 millions de téléspectateurs sur TF1 et que les 12 millions ça a été une énorme surprise. Alors là on s'est dit, ah il y a un événement, il y a un phénomène de société, et oui je crois qu'il y a un phénomène de société.
Parce que jusqu'alors, on entendait le foot féminin, c'est pas vraiment ça, c'est un peu lent, et puis y a pas tellement de technique. C'est ça qu'on entendait jusqu'à il y a pas très longtemps.
Ouais, il y avait beaucoup aussi de commentaires sur elles font la danse, enfin elles sont faites pour la danse. On voit ça dans les images d'archives de l'INA.
On vient de loin.
On vient de très loin. C'est les 50 ans du football féminin cette année. Donc c'était à l'époque de mai 68 plus ou moins. Mais les contrats, les premiers contrats pro qui leur permettent de pouvoir faire un emprunt à la banque, c'est 2007, donc oui, c'est récent, et c'est justement une décision, une volonté alors de Noël Le Graët, de Brigitte Henriques à la Fédération Française de Foot, et de Jean-Michel Aulas, de quelqu'un qui dit à un moment donné, je vais leur donner des contrats, je vais leur dire, prenez des sponsors pour vos chaussures, qui leur a permis d'avoir les moyens, parce que c'est pas forcément l'égalité salariale, elle viendra avec la visibilité, et vous en parliez tout à l'heure de l'émission Téléfoot, enfin de la nouvelle chaîne Téléfoot, ça viendra avec les sponsors, avec les auditeurs et la façon dont on vendra le foot, mais au moins d'avoir les mêmes conditions, d'avoir des entraîneurs sportifs, d'avoir des préparateurs physiques, d'avoir des vestiaires, d'avoir des jeux de maillots, parce qu'elles viennent de très loin.
Ouais, on part de France.
Oui, dans le documentaire, elle raconte qu'à la mi-temps, il pleuvait pour un match, elles devaient essorer leur même maillot pour remettre le même maillot, parce qu'il n'y avait pas un deuxième jeu de maillot, et ça, c'était il y a 10 ans.
Alors effectivement, vous produisez, Julie Gaillet, ce film documentaire Les Joueuses, réalisé par Stéphanie Girard. C'est une plongée dans l'équipe de foot féminine de l'Olympique Lyonnais sur la saison 2018-2019. Le fait que vous ayez choisi Lyon, c'est parce que justement, d'abord c'est une très bonne équipe, mais aussi on vous a ouvert les portes, c'est pour ça ?
Alors c'est parce qu'il y a beaucoup de joueuses internationales, donc ça c'était important pour moi. Il y a Ada Egerberg qui a eu le premier ballon d'or remis il y a 2 ans, où d'ailleurs on voyait les ballons d'or pour les hommes, ils avaient des belles vidéos de tous leurs buts, et elles avaient des photos, elles n'étaient pas tout à fait encore en mouvement. Bon, maintenant ça a changé, mais c'est une immense joueuse, Ada Egerberg. Et quand on lui a remis, d'ailleurs c'était un petit peu maladroit, on lui a demandé, enfin le garçon qui lui a remis son ballon d'or, si elle savait twerker. Alors moi je ne savais pas ce que ça veut dire twerker, mais c'est cette espèce de danse comme ça où on bouge les fesses. Et donc c'est pour ça que notre documentaire s'appelle Les Joueuses, pas là pour danser, parce que c'était le hashtag Not Here to Dance de Ada Egerberg à l'époque. et parce que elle est très, elle a pas joué pour son équipe nationale pour la Coupe du Monde. Enfin, c'est une grande joueuse. Et puis parce que c'est une équipe qui montre un peu comme on, ben, en ce moment ce qui se passe, c'est-à-dire on voit les anciennes qui étaient amateurs. Et dans la même équipe, les nouvelles, qui elles sont des pros, qui ont les mêmes conditions, qui n'ont pas connu en fait cette époque, et puisque Lyon donne des moyens à ses joueuses. Et donc c'est hyper intéressant de voir que quand on donne des moyens, ça se passe. C'est comme pour les droits des femmes. Elles ne se battent pas pour avoir des licences pour qu'il y ait des clubs de football féminin dans les villes, mais quand ça existe... Eh bien, les clubs sont remplis.
Alors, dans cette équipe de Lyon, il y a aussi Wendy Renard, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer. C'est elle qu'on va entendre, Eugénie Le Sommer, dans l'extrait qu'on a choisi. Les joueuses, un documentaire de Stéphanie Girard. Écoutez.
Mais moi, je ne comprenais pas quand les gens disaient « Mais t'es une fille, tu fais du foot ?» Bah ouais. Et en fait, c'est eux qui te mettent ça dans la tête que tu ne peux pas jouer au foot. Parce que quand j'ai commencé, bah, pour moi, ça ne se posait même pas la question. Bah oui, une fille ou un garçon, c'est pareil. Après, ils te font douter, ils te disent « Mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi, quand même ?» Je me suis déjà posé cette question, bon, ça n'a pas duré longtemps, mais... Ouais, on est dans un pays où c'est un peu difficile, la place de la femme. Il faut faire changer ça. Ce qui est marrant, c'est qu'aux États-Unis, c'est le sport numéro un chez les filles. Donc la différence de culture, elle est énorme. Quoi.
Voilà Eugénie Le Sommer qui compare. Elle dit que la différence de culture est énorme. Enfin bon, aux États-Unis, le soccer s'est laissé aux femmes parce que c'est pas le sport numéro un aussi. Non ?
Oui, c'est quand même des grandes joueuses, des grandes équipes. Elles sont elles ont des conditions et c'est des immenses équipes. Puisque vous parlez de la rapidité du jeu, on voit bien maintenant qu'il y a une accélération, qu'elles jouent. Enfin, franchement, il y a eu des gros changements. On voit bien là que dès qu'on leur donne les moyens, bah, ça joue et ça joue bien. Mm-hmm. C'est, je crois, que ce qui a plu pendant la Coupe du Monde féminine. Et j'espère surtout que ça va continuer maintenant. Ça tirera vers le haut tout le monde.
C'est un documentaire joueuse qui est réalisé par Stéphanie Gillard. Pardon Stéphanie d'avoir écorché votre nom. Ce doc Les Joueuses sort en salle le 9 septembre, mais dès le 2 à Lyon, et il sera présenté en avant-première au festival d'Angoulême. C'est toujours la même question qui revient, on se rend bien compte, Julie Gayet. On dit aux femmes, c'est pas pour vous. Ça a été vrai et ça continue d'être un peu vrai pour tout. Ça vous supportait pas, j'imagine. Le fait qu'on dise c'est pas pour les femmes.
Alors, c'est peut-être pour ça qu'il faut relire Gisèle Halimi et l'écouter. Mais après, il y a cette... Alors chacun le voit différemment, mais qu'est-ce qui... On ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas homme, on le devient. Donc, je crois que ça, c'est en train de changer dans la société. Moi, je le vois même sur ce qu'on disait des métiers d'hommes. Là, je suis dans une équipe de cinéma. Il y a des femmes machinaux, des femmes électro. Alors avant, c'était les femmes étaient script, monteuses, scénaristes, c'est-à-dire des métiers derrière un homme. Mmh. Des métiers qui accompagnaient les hommes. Aujourd'hui, elles peuvent, évidemment, réalisatrices, même si on n'est encore qu'à 27%, ce n'est pas du tout 50-50. Pourtant, dans les écoles, c'est 50-50. Mais il y a un grand chemin à faire sur l'inconscient avant de pouvoir simplement dire « c'est pas pour vous ». C'est-à-dire qu'il faut aussi changer nos mentalités, et ça, c'est un long processus.
On ne naît pas femme, mais est-ce qu'on est féministe? Est-ce que vous l'avez toujours été? Est-ce que vous... C'est familial, ça vous vient d'où, Julie Gayet?
Oui, c'est familial. J'ai l'impression vraiment d'avoir eu des femmes dans ma famille. Qui avaient cette indépendance financière, qui faisaient des études. Il était important d'être indépendante. Donc, j'avais même une tante qui mettre un point d'honneur à ne pas cuisiner, parce que comme ça, voilà, je ne fais pas la cuisine, je ne sais pas faire la cuisine. Donc il y a des femmes fortes dans ma famille. Mon arrière-grand-mère était une des premières femmes chirurgiens au début du 20e siècle. Et c'est vrai que de voir ces femmes, sûrement ça m'a aidée, mais après, mon féminisme a aussi grandi en rencontrant des femmes comme Agnès Varda, qui a été une de mes premières rencontres comme comédienne, au travers de rencontres. Et j'ai vraiment cette sensation d'avoir des sœurs, autour de moi et qu'on se construit ensemble. Et c'est très important, cette sororité, cette passation de d'être ensemble et pas juste uniquement une différente.
On va marquer une pause, Julie Gayet. Après quoi, il va falloir, parce que c'est important, parler aussi des violences faites aux femmes. Et le bilan n'est pas bon. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Culture Média en compagnie ce matin de la comédienne productrice Julie Gayet. Malheureusement, évoquer la cause des femmes, c'est passé par cet horrible bilan qui est tombé il y a deux jours. En 2019, le nombre de féminicides a augmenté de 21% peu importe. Bon. 146 femmes tuées par leur compagnon ou ex l'an passé. Ça veut dire une mort tous les deux jours dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, selon vous, à réduire ces violences conjugales?
Parce qu'il manque de moyens, il faut donner des moyens. Les chiffres, on a donné. Il y a eu, maintenant deux ans, trois ans, au moment de justement l'affaire de la grande vague MeToo et de ce mouvement des femmes. Donc moi, j'ai accompagné avec les actrices et de voir toutes ces actrices américaines, beaucoup, mais aussi en France, se fédérer contre les violences en disant maintenant on agit, ça suffit. Il y a eu 25 à 30% de dépôts de plaintes supplémentaires à ce moment-là. On a compris que toutes les femmes avaient été touchées par du harcèlement. Et plus loin, à ce moment-là, une prise de conscience aussi des féminicides, ce nouveau terme qui est arrivé dans la société. Et donc de dire, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une étude qui a été faite, on a donné des chiffres, c'est 500 000 et 1 million, donc c'est pas non plus une folie de dépenses pour pouvoir... 1 milliard pour l'État.
Comme en Espagne, en fait.
Exactement. Et en Espagne, ça a reculé. Et donc, avec des moyens précis. Et puis, à ce moment-là, comme ça ne suffisait pas et que ça ne bougeait pas, il y a eu une grosse mobilisation, et je pense assez historique en France, qui a lancé ce Grenelle des violences. On s'est dit, on va se mettre autour de la table, voir où ça n'allait pas. Et je crois que certains ont eu un peu quelques mea culpa en comprenant qu'effectivement, il y avait peut-être des problèmes à certains endroits. Mais ça a été d'une déception terrible quand, après ce Grenelle, il n'y a rien qui a été débloqué ou très peu. Et on voit que la société, plus elle évolue, plus les féminicides, ce qui est terrible d'ailleurs de se rendre compte de ça, plus les femmes peut-être se libèrent ou sont plus indépendantes.
C'est très violent. La grande cause du quinquennat, cette histoire-là. Vous dites que c'est un échec là pour l'action d'Emmanuel Macron et de sa secrétaire d'État Marlène Schiappa, qui depuis d'ailleurs a quitté le ministère. Et pour vous, c'est un
échec de Marlène Schiappa. Ça, c'est clair. Et on attend maintenant de savoir quelle réaction à ces chiffres, parce que c'est très violent. Aujourd'hui, on a mis sur la table, on sait ce qu'il faut faire. Donc maintenant, on veut de l'action et des moyens. Mm-hmm. Je crois que là... Alors moi, je soutiens beaucoup la Fondation des Femmes. Anne-Cécile Melfer, qui prend la parole et que je trouve très claire sur ces sujets, que je soutiens, que j'encourage. Et là, je crois qu'il va y avoir une nouvelle étape, parce qu'on ne peut pas laisser... on ne peut pas continuer comme ça.
Ce sera quoi, la nouvelle étape?
Alors, il va y avoir plusieurs sujets, mais là, on part avec un train de l'égalité. On a essayé de partir partout en France avec les associations des femmes et sur les violences faites aux femmes et de faire de tout le tour de la France pour se fédérer et peut-être retourner dans la rue s'il le faut.
Il le faut, visiblement. vous parliez du mouvement MeToo il y a quelques minutes, Julie Gayet. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis, qui s'est exprimé aussi en France, différemment d'ailleurs. Est-ce que vous dites aujourd'hui que vraiment ce mouvement-là, MeToo, fait avancer les choses de manière très concrète, ou c'est finalement un paysage qui demande encore à ce qu'on avance?
Ah non, c'est un paysage qui demande à ce qu'on avance, mais ça a quand même été une énorme prise de conscience de beaucoup d'hommes. On a bien vu qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans la société et dans le monde et qui a fédéré. Moi, ce que je... Donc, chez les actrices, c'était Time's Up aux États-Unis, mais c'était l'idée aussi de solidarité et de se fédérer pour toutes celles qui sont dans l'ombre, pour nous les actrices. Mais cette idée de... de sororité, de solidarité, de se lier toutes ensemble, que prône Gisèle Halimi, qui vraiment est un modèle et qui nous a quittés récemment, pour aller plus loin, parce qu'en réalité, à chaque fois, il y a une espèce de petit boomerang, un petit retour en arrière, donc ça avance, puis ça retourne.
C'est par à coup.
La discussion est compliquée, c'est par à coup, mais malgré tout, on le voit bien sur la jeune génération, il y a une prise de conscience sur ce qui se... sur les fonctionnements, sur voilà, les déséquilibres pour les femmes aujourd'hui.
Et dans le cinéma, vous trouvez que ça avance vraiment?
C'est-à-dire, ça avance. Qu'est-ce qui avance dans le cinéma? Il y a eu une très très belle prise de parole d'Adèle Haenel. Je crois que ça a été, on voit la nuance, on a compris beaucoup de choses sur le fonctionnement sur les tournages. Ça a fait avancer. Et puis il y a eu les Césars.
Et puis elle a quitté la salle aussi.
Voilà. Donc c'est toujours, c'est ça, ça avance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nuance, c'est de l'entendre parler d'une société du viol, d'essayer de comprendre les mécanismes, qu'il n'y a pas les salopards. Et c'est comment ça fonctionne, ce rapport de pouvoir. Il faut changer le rapport de force. Mais ce rapport de force existe, et donc comment on le fait changer?
Il y a une vraie question sur les méthodes, et c'est intéressant d'en parler. Il y a la méthode assez radicale, où on descend dans les rues avec des pancartes, on quitte des salles, etc. Et
puis qui est dans tous les mouvements, quels qu'ils soient, mais qui a fait avancer, mais qui n'est pas suffisant. On l'a vu, puisque toutes les femmes de la génération de Gisèle Halimi ont été dans ce combat, et ça n'a pas suffi. L'autre méthode,
L'autre méthode est moins spectaculaire. Je ne sais pas très bien en quoi elle consiste d'ailleurs, mais enfin en une prise de conscience, en des petits gestes au jour le jour, c'est ça?
Non, c'est vraiment concrètement, et c'est pour ça que je produis ce film sur les joueuses, sur le football. C'est-à-dire que quand on donne les moyens, quand on donne les il y a des actes. Enfin, je veux dire, ça doit être une volonté politique, une décision de dire maintenant on donne des moyens, on fait des choses qui permettent de changer les choses. C'est pas juste ça va se faire comme ça. Et pour objectiver, il faut faire des études. C'est pour ça qu'on a lancé dans le cinéma 50-50 2020, qui a permis de se rendre compte des chiffres, de comment ça fonctionne, et donc de faire changer les choses. Je donne souvent cet exemple, mais c'est complètement fou. Pourquoi il y a 80% de maquilleuses dans le cinéma, elles sont payées 25% ou 20% de moins que les hommes, parce que tout à coup, les maquilleurs sont... des artistes, d'avoir fait cette étude permet de prendre conscience et de dire, alors maintenant, le directeur de production, vous allez mettre des barèmes, on va arrêter. Alors quoi, on va dire que les femmes, faut que vous alliez plus discuter vos salaires. Oui, on a bien compris que dans la société, les femmes discutent moins. Faisons changer les choses. Les quotas ou les règles. Alors moi, je suis pour des règles qui font bouger de manière intelligente et pas de dire, alors maintenant, on va faire, par exemple, l'égalité salariale dans le football. C'est absurde, on ne sera jamais Adam ne sera jamais payé comme Messi, même si c'est le Messi.
Ou alors on ne sera plus là pour le voir.
On ne sera pas encore là. Mais il y a des choses qui font avancer. Et sur les violences, il y a eu un Grenelle des violences avec des choses très précises. Donc il faut les appliquer maintenant et donner des moyens et faire des campagnes et faire bouger des choses.
Julie Gayet, quelques mots sur le cinéma. Cet été, ça a été compliqué pour les salles de cinéma avec ce virus-là. Les chiffres de fréquentation ne sont pas bons. Il n'y avait pas de gros films américains pour attirer les jeunes. Est-ce que vous dites il faut aller dans les salles? Mais enfin, une fois qu'on a dit ça, est-ce que l'envie est vraiment là, finalement, cet été, d'aller voir des films en salle, avec le masque, etc.?
Voir un film sur sa télévision ou aller le voir en salle avec d'autres, sur un grand écran, le son, la sensation, c'est incomparable, c'est un tel plaisir. Moi là, je suis retournée en salle pour présenter Polly de Nicolas Vanier, parce qu'on va commencer à faire la tournée, et c'est... il y a une vibration, c'est formidable. Et je le vois bien, et les gens ont envie de ça, ont besoin de ça. Après, c'est très important qu'il y ait des sécurités, que les choses soient bien faites. Donc oui, mais des règles pour rassurer, et les mêmes pour tout le monde, c'est surtout ça qui est important. Et puis ça reviendra doucement, je l'espère, mais que ce soit le cinéma, très bien, mais surtout le spectacle vivant. C'est-à-dire que moi qui aime, faisais partie d'un festival cet été à Paris, et Paris l'été, et c'était en plein air, dans un collège, c'était magnifique. On a envie de théâtre. Là, il faut soutenir, il faut mettre des moyens pour le spectacle vivant et les mêmes règles pour tous. Ça, je pense que c'est quand même important.
Ouais, vous faites allusion quoi, au Puy du Fou, des choses comme ça.
Comme ça, voilà.
Non, mais c'est vrai, on peut le dire. Hein,
y a on pas peut de... le dire. Voilà, pourquoi pas les mêmes règles pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi il y a des dérogations en réalité.
Merci beaucoup, Julie Gayet, d'être passée dans Culture Média ce matin. Je rappelle que vous produisez Les Joueuses, le documentaire plongé dans le quotidien et l'intimité des Lyonnaises. Il sera bientôt dans les salles, ce sera en septembre. Et puis oui, vous allez jouer dans le film de Nicolas Vanier-Poly, mais ça, c'est un peu plus tard finalement.
Ah non, j'ai joué, je fais la tournée.
Le film sort en octobre, voilà. pas tout de suite.
Il sort début octobre, exactement. Mmh.
Merci beaucoup et bonne fin d'été. Musique sur Europe 1, voici les Coen Brothers. C'est un groupe belge qui reprend Tracy Chapman. Oui, c'est la cover de l'été Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Des séries en série partout sur toutes les chaînes, laquelle choisir? Voici l'indispensable du jour. Bonjour Clémence Olivier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Ce matin, vous arrivez avec Rami, série américaine. Vous dites Rami peut-être d'ailleurs.
Non, Rami.
Rami, saison 2.
C'est ça, Rami, c'est le nom du héros de la série. C'est un jeune américain musulman d'une vingtaine d'années. Il vit dans le New Jersey avec ses parents, des immigrés égyptiens. Et Rami, comme beaucoup de jeunes de son âge, il travaille dans une start-up, il aime faire la fête, sortir avec des filles. Sauf qu'en même temps, sa famille et ses amis lui mettent la pression pour qu'il trouve la femme de sa vie.
Tu vas mourir tout seul, mon pote.
Quoi ?
Ouais. Il a raison, Rami. Tu vas plus avoir beaucoup de choix. Il n'y a plus que deux musulmanes bonasses en ville. Bientôt, elles ne seront plus sur le marché.
Elles sont vilaines. Tu dois chercher ailleurs si tu veux trouver de la meuf de qualité.
Non, tout va bien. J'ai pas besoin de ça.
C'est ce qu'a dû faire mon cousin. Ça lui a pris une éternité. Maintenant, tu as trouvé une fille dans l'Ohio.
Tu te fais vieux, mon pote. Et tu commences à te dégarnir, ça se voit.
Tout va bien.
Tu vas te retrouver au tapis à sweeper des vieilles divorcées. Tu dois trouver une meuf, Asa. D'accord ?
Je me demande comment ils disent. As soon as possible. Je me demande comment ils disent bonasse musulmane en anglais. Enfin bon.
J'aime pas la traduction. Bon, dans chaque épisode, on suit donc Rami dans son quotidien, sa recherche de la femme idéale, mais aussi dans sa quête spirituelle, car il se pose beaucoup de questions sur le sens de sa vie et sur sa foi aussi.
Je suis complètement paumé. Quand je vois mes parents et à quel point ils sont forts et que je vois qu'ils savent que tout va bien se passer à chaque fois, parce qu'ils ont Dieu. Et moi aussi, je crois en Dieu. Il y a beaucoup trop de signes. Tenez, une fois, j'ai reçu un message d'une fille que j'aimais bien. 2 minutes après m'être branlé sur sa photo de profil Facebook. On s'était pas parlé depuis des mois et tout d'un coup, elle me demande « Comment ça va, Rami ?» Vous allez pas me dire que tout ça, c'est pas connecté. Et ouais, je couche avec des filles même si je suis pas marié et je vais probablement essayer les champignons un de ces jours. Et alors quoi? Ça veut dire que je suis pas un bon musulman?
Ah non, mais c'est atroce. Excusez-moi,
c'est Julie Gayet qui est toujours là qui réagit.
Alors Clémence,
oui,
je fais la relance.
Oui, essayez.
C'est pas si souvent qu'on raconte la vie d'un jeune musulman à la télévision, surtout avec ces termes, franchement.
Oui, c'est clair, c'est même très rare. Dans les séries, les musulmans sont souvent stéréotypés. Ils jouent les terroristes, les intégristes, ou ils ont juste un petit rôle. Mais ici, c'est pas le cas. Rami est un jeune tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf que oui, là, il va à la mosquée et il ne boit pas d'alcool. D'ailleurs, tous les personnages de cette série sont nuancés et tiraillés par leur double culture. Comme la sœur de Rami, Dina, elle n'hésite pas à revendiquer ses droits en tant que femme. Par exemple, elle s'offusque de voir ses parents traiter différemment son frère parce que c'est un garçon. Donc ça contrebalance un petit peu le personnage de Rami.
Ouais. Ça doit être rade, hein. Plus, ouais. Sur le compte de la traduction.
C'est
hein.
Ça. Ça aide quand même d'avoir ce personnage de femme forte. Malgré tout, elle ne peut pas s'empêcher de se freiner et de culpabiliser à l'idée de sortir avec ses copines et d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Bref, c'est juste un exemple, mais c'est pour vous expliquer que la série est en quelque sorte une photographie d'une famille musulmane d'aujourd'hui.
Et c'est donc une comédie.
Oui, une comédie piquante, même très crue. Elle s'affranchit totalement du politiquement correct. Elle parle de l'intime, de la religion, de sexe, de handicap aussi, sans aucun tabou, quitte à nous dérouter, nous, spectateurs. Mais en sous-texte, elle porte aussi un message politique. Elle raconte comment le regard sur les musulmans a changé après les attentats du 11 septembre 2001. Et dans un épisode de la saison 2, elle dénonce aussi en creux l'ignorance des militants anti-islam.
Est-ce que cette série vous a plu ?
Eh bien oui, beaucoup. Déjà, je vous l'ai dit, parce que la série démonte les préjugés sur les musulmans, mais elle met aussi en avant les paradoxes au sein de la communauté musulmane, et c'est assez rare de voir ça à l'écran. Surtout, le gros point fort de la série, c'est qu'elle est vraiment très drôle, comme quand la mère de Rami et son oncle Nassim, racistes, misogynes et complotistes, livrent leur version de la mort de la princesse Diana.
Écoute-moi bien, ne fais confiance à personne qui fait affaire avec les British.
C'est vrai, ils ont tué la princesse Diana à l'Airama.
Je crois qu'elle a eu un accident d'auto, non ?
C'était pas un accident, c'en était un. Mais c'en était pas un.
Elle est tombée amoureuse d'un Égyptien, c'était pas un accident.
Alors la reine les a tués tous les deux, bien sûr.
Oui.
Elle a préféré tuer une princesse plutôt que de la voir avec un arabe. On sait ce qui s'est passé, tu sais. C'était sur liveleak.com.
Bon, vous l'entendez, les répliques fusent et ce n'est pas hyper étonnant quand on sait que la série a été écrite par un humoriste, Rami Youssef. C'est lui qui joue aussi le rôle de Rami. Le comédien vient du stand-up et c'est ce qui fait sans doute que cette série est très rythmée.
Et c'est lui qui fait le mordant de la série ?
Oui, totalement, c'est lui. Il est parfait dans le rôle du mec paumé, maladroit, avec un bon fond. Il a d'ailleurs reçu un Golden Globe pour ce rôle. Mais je dois dire, tous les acteurs m'ont bluffé. Mahershala Ali qui joue un religieux dans la saison 2, Amer Waked qui fait le père, mais j'ai un gros faible aussi pour la mère de Rami, jouée par Yam Abbas. Vous l'avez peut-être vu dans le film Les Citronniers ou la série Succession.
Super comédienne.
Oui. Et bien ici, actrice. Elle est géniale en mère de famille envahissante et un peu naïve, comme quand elle se persuade qu'elle se fera des amis en devenant chauffeur Uber.
Où peut-on voir Rami rapidement, Clémence ?
Eh bien, les deux premières saisons de 10 épisodes chacune sont disponibles sur la plateforme Starzplay et ça se regarde très bien puisque les épisodes sont courts, ils font 25 minutes en moyenne.
Clémence Olivier, c'était Rami.
C'est ça.
Merci Clémence pour vos indispensables tout au long de l'été. Et si on fêtait quelque chose ? Bah ouais, vous avez forcément quelque chose à fêter. Voici Indochine sur Europe 1. Nos célébrations. Allez, voici première page, encore une première page à découvrir en avant-première parmi les livres qui sortent lors de cette rentrée littéraire. Black Manou, écrit par Gauze aux éditions Le Nouvel Attila. Première page. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Pas besoin d'aller sur la mer de la tranquillité pour prononcer pareille phrase. Roissy est sur la Lune et Air France, une compagnie spatiale pour tout Africain. Quand l'Airbus s'arrime à un satellite du terminal 2E, la First Class ouvre la procession d'astronautes. Couloir de verre et d'aluminium, les tapis roulants hâtent le pas. Puis les chemins se séparent, à droite les passeports européens, à gauche, le reste du monde. La zone internationale s'arrête à la ligne jaune. La France commence après. Les taxis, à la sortie du hall arrivé, appartiennent majoritairement à la tribu des Toyota hybrides, mi-essence, mi-électrique. Ils roulent au pétrole et au nucléaire. Hybridation des consommations, hybridation des pollutions. Black Manou tend au chauffeur le papier avec l'adresse. Pour Belleville, vous préférez par Porte de Bagnolet ou par Porte de la Chapelle ? Voilà, c'était la première page de Black Manou de Gauze aux éditions Le Nouvel Attila. Culture Média, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain avec notre collègue de bureau, Philippe Googler, qui signe aussi des trains pas comme les autres. Nous serons également, et on est très contents, avec la chanteuse Dani. À suivre, Anne Roumanoff, le best-of. Bonne journée à vous, je ne vous embrasse pas, à demain.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.